Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale organisée dans le cadre de la Journée nationale de la résilience en partenariat avec la préfecture de l'Ain. En partenariat, puisque je ne suis pas seule pour animer cette émission, Pierre-Antoine Harvert, bonjour.
Bonjour.
Pierre-Antoine, vous êtes responsable au sein du bureau de la gestion locale de crise à la préfecture. En deux mots, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire planifier, identifier les différents risques du département et s'y préparer, le tester en réel ou en exercice. Et puis c'est aussi faire de la prévention sur les risques pour que chacun sache quoi faire.
Et faire des émissions de radio. Et nous verrons dans cette émission qu'il existe des risques à connaître dans notre département, mais aussi toute une organisation pour faire en sorte que tout aille au mieux en cas de souci. D'ailleurs, nous sommes en direct et en public d'une zone à risque, puisque nous sommes au tiers-lieu L'Écrin à Brest-Vallon. Merci pour l'accueil et bonjour à toutes et à tous. Pour échanger sur ce thème, nous accueillons plusieurs invités.
Marianne Tessa, vous êtes depuis un an directrice de cabinet de la préfète de l'Ain, son bras droit sur les questions de sécurité et de communication. En cas d'événement, vous êtes amenée à piloter sous son autorité la cellule de crise de la préfecture.
Hugues de Rognaucourt, vous êtes depuis 2017 directeur départemental des services d'incendie et de secours, le SDIS. Bonjour.
Virginie Grignola-Bernard, vous êtes depuis 2014 maire de la commune de Brest-Vallon et vice-présidente de la communauté d'agglomération de Grand-Bourg-Aglo.
Vous écoutez Radio B. Radio B.
Marianne Tessa, à l'échelle du département de l'Ain, quels sont les risques identifiés au niveau de la préfecture ?
Alors, tout d'abord, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir bien voulu organiser cette émission donc, qui s'inscrit dans le cadre de ce cycle de sensibilisation vraiment très important pour nous, qu'on appelle la Journée nationale de la résilience et qu'on organise en partenariat avec les élus pour que vraiment ces messages sur les risques soient portés partout sur le territoire du département de l'Ain. Donc, pour répondre à votre question, vous avez raison de parler de risques identifiés. Parce que le premier maillon de la gestion de crise, c'est de connaître les risques. Dans l'Ain, on a vraiment un panel de risques assez étendu. Il y a les risques naturels, bien sûr, on les connaît, on y pense spontanément. Les risques liés aux intempéries, les risques liés aux crues aussi, qui concernent particulièrement le département de l'Ain, avec plusieurs cours d'eau qu'on dit surveillés. Mais il y a aussi les risques industriels, technologiques. Et là encore, le département, pour une raison évidente, parce qu'il a un tissu industriel et économique très dense, est concerné par ces risques diversifiés. On a une centrale nucléaire dans le département, donc c'est encore un risque particulier. Donc voilà, on s'efforce de bien connaître tous ces risques et aussi d'avoir en tête qu'ils peuvent évoluer. Et je pense par exemple au risque feu de forêt, qui est un risque qui a vocation à s'intensifier avec le changement climatique, mais peut-être que le contrôleur général pourra en dire un mot.
On va y revenir. Pour la plupart des habitants, effectivement, pensez tout d'abord à la centrale du Bugey, en préparant l'émission en tout cas. Moi, j'ai pensé directement à la centrale. On y imagine un peu ce que ça représente, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Sur le risque nucléaire, disons que c'est quand même un risque qui est traité de manière très particulière, je dirais, au niveau national, avec une doctrine très claire et très établie, que nous, on décline en préfecture. Il y a bien sûr une planification de la réponse de crise qui est propre au risque nucléaire. Mais peut-être que sur ce sujet, le contrôleur général peut étayer un petit peu sur ce que ça représente en termes d'impact. Mais bien sûr, c'est un risque qu'on a à vraiment à l'esprit, parce que l'impact peut être direct et peut être sanitaire sur les populations en cas notamment, et c'est ce qu'on surveille, de rejet radioactif. Mais ça, c'est vraiment le scénario extrême de rejet radioactif dans l'environnement qui peut avoir un impact sur la santé des personnes qui se trouvent aux alentours de la centrale nucléaire.
Hugues de Rognaucourt, vous souhaitez compléter ?
Oui, donc je vais compléter. On suit en fait près de 550 installations classées dans le département de l'Ain. Et sur ces 550, on va faire un focus sur les 17 qui nous semblent le plus dangereux, comme cela a été dit, par rapport à des critères dimensionnants, par rapport à leur activité, par rapport aux impacts que ça peut avoir sur la population. Parmi ces 17 installations, nous sommes dans une commune qui en compte une, hein, avec le stockage Storengy sur la commune d'Étrée. On parlait de l'installation nucléaire, le CNPE, Centre National de Production Électrique. Il y a 5 installations nucléaires de base, hein, dans ce site. On aura aussi la possibilité de voir d'ici une dizaine d'années l'installation de 2 EPR. Donc c'est un département, bien évidemment, qui, comme l'a dit Madame la directrice de cabinet, qui est en pleine évolution et on croit savoir pourquoi ce département est choisi pour ces installations. Sur le site, moi je dirais, comme tous les autres sites, en fait, ce qu'il faut, c'est quand on arrive dans un endroit, quand on vient s'installer dans une maison, dans une localité, il faut connaître les risques qui sont autour de cette installation, avoir les bons réflexes, mais on y reviendra. Mm-hmm. Et en fonction de cela, on a différents scénarios. Donc le risque extrême, évidemment, c'est un rejet d'une matière radioactive, mais on peut avoir aussi un rejet dans le Rhône qui est à côté, ou on peut simplement avoir un dégagement simple. Donc en fonction de cela, on a des périmètres de sécurité, 30 km, 20 km, 10 km. On a aussi des mesures par rapport à des pastilles d'iode à prendre en fonction de tel ou tel scénario. Et puis le mieux, c'est bien évidemment de tester. Ça permet de réagir, d'avoir un certain nombre de bons messages à intégrer, de savoir se préparer. Et ça, je crois que c'est une des marques de fabrique de l'État français, c'est de pouvoir se préparer, de pouvoir identifier les risques et d'habituer notre population au scénario du pire, tout simplement.
Pour revenir sur le secteur sur lequel on se situe, on est à Brest-Vallon aujourd'hui. Ici, concrètement, quels sont les risques identifiés? Virginie Grignola-Bernard, vous êtes maire de la commune?
Oui, bonsoir à tous. Mais écoutez, il y a effectivement, madame l'a évoqué, hein, des aléas naturels, la grêle, la canicule. On a la particularité sur la commune d'avoir deux mesures, deux plans de prévention. Un pour les risques d'inondation liés à la présence de la ressouse et de ses affluents avec des possibilités de crues sur la plaine. Et l'autre, le PPRT, donc le plan de prévention des risques technologiques liés à la présence de Storengy. En sachant que plus largement et au-delà de ce PPRT, cette commune elle est traversée à la fois par une canalisation d'éthylène, par des canalisations de gaz naturel, par un saumoduc, donc voilà, une pluralité d'activités industrielles qui n'en fait pas forcément un lieu à éviter, mais en tout cas un lieu où il fait bon vivre et où il y a quelques précautions à prendre.
On voit que les risques évoluent, les phénomènes sont de plus en plus imprévisibles et localisés. C'est le cas de ce qui s'est passé la semaine dernière dans le Rhône, la Loire ou l'Ardèche, du côté des sapeurs-pompiers qui sont les premières personnes à être amenées à venir sur le terrain. Est-ce que vous constatez ou pas cette réalité et comment est-ce que vous préparez aux risques d'aujourd'hui et peut-être ceux de demain?
Effectivement, on voit bien qu'il y a toujours eu des périodes d'inondation, il y a toujours eu des périodes de feu, mais on voit que la récurrence, elle est beaucoup plus forte. Et tous les ans, on peut dire qu'il y a un événement, il y a une catastrophe plutôt naturelle qui soit on l'a subi avec gravité. On parle des feux de forêt qu'on a pu avoir en 2003, en 2022, des inondations importantes, soit on l'a, avec une atténuation, puisque ça va taper des départements qui sont un peu plus exposés. Pour l'instant, force est de constater qu'on échappe un peu aux fortes conséquences, hein, puisque les récents événements naturels ont plutôt concerné le département du Jura, Savoie, Haute-Savoie, et là, Loire. Mais en tout cas, on se prépare. Alors, on se prépare comment? On a cette chance-là aussi, dans le département de l'Ain, d'avoir un maillage territorial, d'avoir des casernes de sapeurs-pompiers diffus sur tout le territoire, donc ça, c'est important. On parlait du rôle essentiel des élus, mais il y a aussi l'action de la population, la citoyenneté, hein, qui doit rentrer en ligne de compte. Avec un corps de sapeurs-pompiers, ça c'est plus efficace. Et puis enfin, on évolue dans nos techniques, tout simplement. Hein. On connaissait le soldat du feu il y a près de 30 ans. On est devenu soldat un peu plus de la vie, des secours, de l'urgence, hein, par la force des choses aussi, avec ce problème de désertification médicale. Puis enfin, on devient soldat du climat, comme on dit, puisqu'on est de plus en plus touché par ces aléas. Donc on doit se former maintenant en feu de forêt, Avant, c'était quelques centres qui avaient cette spécialité. Aujourd'hui, la majorité de nos centres de secours la possède. Le risque d'inondation, on a déployé la semaine dernière, comme ça a été dit par Pierre-Antoine Harvert, des sauveteurs aquatiques en Ardèche. Donc, on a une équipe de plus d'une soixantaine de sauveteurs aquatiques. Voilà. Donc, on se prépare à le panel des risques est de plus en plus diversifié et ce qui demande de plus en plus de formation et d'obligations pour nous, sapeurs-pompiers.
Justement, pour revenir sur ce qui s'est passé en Ardèche, quand on imagine quand on voit la Ressouze et qu'on est d'ici, on n'imagine pas avoir des crues aussi importantes. Pourtant, c'est ce qu'on imagine pour le futur.
Alors, pas forcément sur le bassin, sur ce bassin ici, puisque on n'est pas directement confronté à un bassin versant avec une montagne qui descend, ou alors un réceptacle de cours d'eau qui se densifie. Par contre, on a une montée des eaux qui peut se faire plus ou moins rapidement, mais avec quand même une surface d'évasion qui fait que l'eau sera plus diffuse que concentrée dans un tissu urbain qui est plutôt accidentogène. Donc, à un moindre niveau, on doit s'y préparer, sûrement avec des conséquences moins graves, mais en tout cas, oui, on doit s'y préparer. Mais tout à l'heure, on parlait on renvoie toujours au secteur public, aux sapeurs-pompiers, à la préfecture, aux élus, de la responsabilité des conséquences. Mais au départ, on doit, nous, se préparer. Moi, je suis toujours... J'installe en ce moment des étudiants familiaux dans une habitation. La première chose que je leur demande, c'est si se passe quelque chose, qu'est-ce que tu fais ? La moitié des maisons ont seulement un détecteur de fumée, alors que c'est le principal risque la nuit. Comment j'évacue, comment je me situe, quel plan j'ai. Puis après, on rentrera dans des mesures plus concrètes. Mais déjà, connaître son environnement et qu'est-ce que je ferais s'il se passait donc quelque chose. Donc, il faut déjà se poser cette question pour pouvoir mieux réagir.
Justement, c'était ma prochaine question. Merci. Parce que nous, en tant qu'habitants, citoyens, on n'a pas forcément connaissance de tous ces risques. Là, on en a évoqué déjà plusieurs. Si on débarque dans le département de l'Ain, et même si on y est né, on n'a pas forcément toutes ces informations. Concrètement, comment un Indinois ou une Indinoise, ou un habitant de Brest-Vallon, par exemple, peut avoir accès à toutes ces informations ? Est-ce que c'est pas un peu anxiogène ?
Alors, pour le cas de Brest-Vallon, et je pense que c'est aussi le cas de nombreuses communes, on a le devoir de mettre en place ce qu'on appelle un DICRIM, un document d'information communal sur les risques majeurs, qui brosse l'ensemble des risques et des attitudes à avoir ou à connaître. Moi, je crois et je souscris pleinement à l'idée que l'habitant, c'est le premier acteur de sa sécurité. Et cette campagne « Tous résilients face aux risques » est un vrai enjeu pour l'avenir des biens et des personnes. Au-delà de ce document, il y a tout cet aspect préventif que l'on fait, donc au travers de ce document, plus basiquement avec les écoles, dans le cadre des PPMS. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier nos deux SLIS qui participent à ces activités régulières, deux à trois fois.
PPMS.
Plan de prévention de mise en sécurité. Voilà, donc un anti-intrusion et puis un incendie, souvent. Voilà, donc ça, c'en est une forme. Et on travaille aussi beaucoup sur des actions de sensibilisation et de médiation. C'est-à-dire qu'on va proposer, par exemple, des expos sur l'hydrogène, puisque Storengy est amené à devoir stocker peut-être dans le futur, en tout cas c'est une perspective de l'hydrogène, et que dans la représentation populaire, l'hydrogène, si on fait référence à nos cours de physique, c'est plutôt un gaz explosif, sauf que c'est très volatile. Voilà. Donc tout ce travail d'acculturation, on le fait par des expos, on le fait par le vélo hydrogène qu'on met à disposition, ou d'autres, des réunions publiques sur les digues et les fonctions des digues à CRA pour éviter ou contraindre ces crues. Voilà.
Marianne Tessa, du côté de la préfecture ?
Oui, peut-être pour compléter et aller dans le sens de ce que dit Madame la maire. Donc, cette logique de porter à connaissance du public des risques, elle existe au niveau communal. Elle se retrouve de la même façon au niveau départemental. Il y a un document départemental des risques majeurs. Toute personne qui souhaite s'informer sur les risques au niveau du département de l'Ain peut se rendre sur le site des services de l'État dans l'Ain et aura accès à un certain nombre de documentations. Donc, la documentation sur la connaissance des risques, mais aussi, et c'est intéressant, la planification qu'on met en face, c'est-à-dire les plans adoptés par les pouvoirs publics qui indiquent quels seront les grands axes de la réponse si un événement doit se produire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on aurait pu peut-être en parler tout à l'heure, mais pour ce qui concerne les risques technologiques et industriels, cette notion de résilience, elle se construit en étroite coordination avec les exploitants industriels. Et c'est vraiment important de le souligner, que ce soit les sites Seveso, que ce soit la centrale nucléaire du Bugey en ce qui concerne EDF, les portées à connaissance du public, le travail de sensibilisation, il est fait en lien avec ces exploitants qui ont des obligations réglementaires, déjà, d'information de la population. Et puis, bien sûr, on va au-delà, dans une logique de prévention et de connaissances. Donc, quand on habite réellement à proximité, par exemple, d'un site Seveso ou d'une installation nucléaire, là, on va avoir des messages ciblés qu'on va recevoir des pouvoirs publics, des autorités et des exploitants. Et puis, quand on n'est pas concerné par ces cas-là, tout le monde est concerné par des risques, on l'a dit. Et là, c'est l'information générale. Et puis, c'est des conduites à tenir, on pourra peut-être y revenir, qui, en fait, sont valables, si j'ose dire, quasiment en toutes circonstances. Donc, c'est la bonne nouvelle. Il y a quelques réflexes qu'on peut toujours garder en tête, quel que soit le risque.
Est-ce que le fait d'avoir trop d'informations sur ces risques, c'est pas un peu anxiogène ? Je reviens sur cette question parce qu'en préparant l'émission avec Pierre-Antoine, moi, je me suis rendu compte que waouh, il pouvait se passer tellement de choses. J'ai commencé à avoir un petit peu peur.
Alors, peut-être pour répondre à cette question, à mon sens, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on parle des risques, mais in fine, l'enjeu, c'est quelles sont les conséquences d'un sinistre. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que les conséquences, elles vont grandement varier en fait en fonction du comportement de la population. On peut avoir les sapeurs-pompiers les mieux équipés, les plus entraînés, les plus aguerris, et c'est le cas dans l'Ain. La population ne connaît pas les risques à tenir, on va majorer l'impact. C'est l'impact économique, c'est l'impact humain, bien sûr, individuel, collectif, qu'on va subir en cas de sinistre. C'est vraiment ça la notion de résilience. Donc, c'est la première raison pour laquelle ça vaut le coup d'être informé sur les risques. Et la deuxième chose, c'est, je pense, en fait, il y a une demande du public et de la population. On le voit, je pense que les agents du bureau de la gestion des crises, en lien avec les sapeurs-pompiers notamment, qui vont là pendant toute cette opération Journée nationale de la résilience au contact du public, ressentent en fait cette demande au contraire de savoir. Parce que ce qui serait anxiogène, ce serait de dire bah voilà, il y a tel risque et puis c'est comme ça. C'est pas du tout ça le message, c'est voilà tout ce que vous pouvez faire pour être prêt si un événement se déroule. Et bien sûr, si ça arrive, vous pourrez compter sur les forces de sécurité, les forces de secours, sur les élus qui auront leur réaction dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, etc.
Alors ça, c'est quand on est bien informé, on a des capacités à mieux réagir.
Mais encore faut-il savoir qu'il est en train de se passer quelque chose.
Et là, il y a un outil qui se déploie. Vous l'avez peut-être testé. À Bourg, c'était le 10 octobre. Ici, à Brest-Vallon, c'était aujourd'hui, mardi 22 octobre. Cet outil, c'est FR Alerte. On entend des réactions de Burgiens.
Alors, lors de l'alerte qui a eu lieu la semaine dernière, j'étais avec des collègues dans un bureau. Et là, surprise, donc deux numéros de téléphone sonnent de façon bizarre, donc on ne comprenait pas. Et en fin de compte, on a lu le message. Et derrière, voilà. Enfin, c'est pas que ça m'a. Enfin, si, ça m'a surpris parce que donc, je ne sais pas quelle campagne d'information ils ont fait, mais j'étais pas dans la boucle.
Ma réaction personnelle, eh bien, le son tellement aigu a failli me faire renverser ma tasse de café. Sorti de ça, j'ai pas tout compris, mais. Tout le monde était un petit peu surpris.
J'étais en début de réunion avec deux autres collègues et quand nos portables se sont mis à faire du bruit, voilà, on s'est toutes regardées et heureusement, l'une de nous a dit « Ah oui, c'est l'alerte, on nous avait prévenu ». Sinon, franchement, il y avait quand même, voilà, il me semble qu'on avait un début de panique.
Tous les téléphones se sont mis à sonner, certains se mettaient en fait à avoir l'annonce vocale, pas d'autres. En fait, on n'avait pas les mêmes réactions sur tous les téléphones, mais c'était vraiment un sentiment étrange. On se demandait ce qui se passait. Et puis avec ce qui s'est passé au Liban récemment et les téléphones qui étaient explosifs, voilà, ça crée un sentiment étrange. Je pense que ça manquait un peu de pédagogie et du coup, ça crée un peu de mystères sur les technologies qui sont utilisées et qui sont capables d'être déployées sur nos téléphones. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ça marche et ça mériterait d'être expliqué.
Alors un outil qui laisse pas indifférent, du côté de la préfecture, Pierre-Antoine, vous avez aussi eu des retours.
On a laissé la possibilité aux personnes de nous contacter par mail. On a eu 70 mails à peu près entre la semaine dernière à Bourg-en-Bresse et aujourd'hui sur Bresse-Vallon. C'est pas habituel qu'on nous écrive pour nous dire qu'on a reçu quelque chose. On a eu 90%, 95% de retours positifs, voire même des remerciements. C'est plutôt agréable et c'est pas, pour le coup, pas habituel. De la même manière qu'FR Alert ne l'est pas. On a eu quelques questions sur des questions techniques de comment ça marche, comment vous avez mon numéro. En tout cas, ce qui ressort, c'est un retour plutôt positif, mais qui laisse pas indifférent, effectivement.
Alors justement, on l'a entendu là dans le micro-trottoir, des questions sur le fonctionnement. Comment est-ce que vous avez accès au numéro des personnes? Comment ça marche, Marianne Tessa?
Alors peut-être déjà rappeler ce qu'est FR Alert. Donc FR Alert, c'est, on peut encore dire, le nouveau système d'alerte de l'État qui peut être déclenché par le préfet lorsqu'il y a un événement grave. C'est toujours voilà, une décision qui s'apprécie au cas par cas, en fonction de la situation, et qui est complémentaire de tous les autres moyens d'alerte que, bien sûr, tout Indinois et toute Indinoise connaît, les moyens notamment d'alerte communaux, les moyens des industriels, je pense aux sirènes, etc. Donc, pour répondre à la question sur les numéros de téléphone, la préfecture ne dispose pas des numéros de téléphone de tous les Indinois. Non, bien sûr que non. On n'a pas besoin des numéros de téléphone pour utiliser FR Alert. En fait, quand le dispositif FR Alert est déclenché, ce qui se passe, ce n'est pas un appel. On n'appelle pas le numéro de téléphone. En fait, on définit une zone de réception, on définit un message et on demande en fait aux opérateurs de diffuser à tous les portables présents dans cette zone, sans avoir connaissance des numéros de téléphone, l'alerte. Ce qu'il faut dire, c'est que la zone de diffusion, nous on la définit, mais c'est pas précis au mètre près, si vous voulez. Donc c'est-à-dire on peut recevoir l'alerte en étant à proximité de cette zone, mais c'est pas une difficulté en soi. Ensuite, sur voilà la question de ces tests, donc dans l'un on a déjà beaucoup testé FR Alert et c'est important parce que bien sûr avant chaque test de FR Alert on communique très largement, on compte beaucoup sur les médias locaux. Ils jouent le jeu pour relayer l'information. Mais finalement, la meilleure manière de faire connaître FR Alert et de préparer la population à ce qu'est cette sonnerie, qui c'est vrai est très intrusive et c'est sa raison d'être, et en fait, c'est de le tester pour que la première fois qu'une personne entend FR Alert, ce ne soit pas dans le cadre d'un événement réel, mais justement dans le cadre d'un exercice, et pour que le jour J, malheureusement, s'il y a un sinistre, s'il y a un événement, eh bien, tout le monde sache ce qu'est FR Alert et à quoi ça sert.
Est-ce que ça ne crée pas un phénomène de panique tout de même? Est-ce que vous avez eu des appels peut-être du côté des pompiers?
Oui, il y a toujours ce sentiment, mais souvenez-vous, il y a un temps qui est quand même assez court, on avait cette sirène qui résonnait, qui aussi était... qui était suspecte quelque part. Quand on faisait un exercice, finalement, sirène, c'est un exercice, c'est pas un exercice, donc c'était pas très facile. Puis qui était au courant de ce que ça voulait dire, les différents signaux? Donc après, on peut nous reprocher de ne pas être assez au courant. Ensuite, on nous reproche de trop alerter. Je crois qu'on revient toujours aux mêmes choses. Il faut être pédagogiquement au courant de ce qui se passe, être exercé. Il faut faire des exercices. Je crois que c'est le maître mot. C'est-à-dire que le jour où ça arrive, ben, je suis près. Alors même si c'est lointain, même si on parle des gestes secourisme, il en reste toujours quelque chose. Donc en tout cas, il faut s'exercer, il faut être prêt. Et le jour où ça arrive, ben je crois moi que quand il y a une crise et puis qu'on est alerté, les gens se mobilisent.
Ah. Désolée pour le dire, et peut-être qu'on aurait dû quand même commencer par là, c'est vraiment un outil qui peut sauver des vies. Donc voilà, c'est ça l'enjeu derrière FR Alert, et c'est un moyen d'alerte complémentaire, comme je le disais, mais très puissant, parce qu'on définit le message. Donc en fait, on n'a pas de risque, ou en tout cas on réduit considérablement le risque de mauvaise interprétation de l'alerte. C'est ce que commençait à dire le contrôleur général. Très bien, j'ai une alerte, mais je fais quoi? Et ben, l'avantage avec FR Alert, c'est que le message, la conduite à tenir est comprise dans l'alerte. Voilà, c'était simplement ce que je voulais préciser.
Ah, c'est vrai qu'on vous l'avait évoqué, on a eu l'habitude de l'alerte donnée depuis le clocher du village ou la sirène de la caserne. Est-ce que ça existe encore, ce fonctionnement, Virginie Grignola-Bernard?
Et oui, nous avons encore les pieds de sirène sur nos deux bâtiments, au nord et au sud de la commune. Et c'est un élément d'alerte que l'on pourrait être amené à utiliser si le cas se présentait.
Avec des exercices pratiqués, enfin, moi quand j'étais petite, c'était le premier dimanche du mois, quelque chose comme ça.
Alors oui, sur le sud de la commune, effectivement, c'est le premier dimanche du mois que cette sirène est vérifiée.
Et pour les pompiers, c'est ça?
Par les pompiers. Voilà, par la caserne de Cras-sur-Ressouze.
En fait, historiquement, on appelait ça le schéma national de l'alerte, et qui était basé sur des sirènes, mais on a très vite eu la problème technologique de les maintenir en condition, qui les arme, qui les entretient. Donc finalement, les sites qui ont gardé, ces 16 communes par rapport aux 17 sites Céveso, ont gardé des sirènes. Et souvent, les centres locaux, qui avaient des corps communaux, ont gardé aussi cette sirène. Donc c'est pour ça que dans certaines communes, on peut encore avoir, au-delà des communes qui ont un site Céveso, on peut avoir une sirène. Mais encore une fois, comme cela a été dit, j'entends la sirène. Si je ne sais pas quoi faire, je peux avoir un risque qui est de pas prendre la bonne mesure. Mmh. On est sur un site, par exemple, ici, qui va préconiser le confinement, c'est-à-dire la mise à l'abri. Surtout, restez chez vous, calfeutrez-vous, et non pas sortez, évacuez. Donc, en fonction du... Je reçois une information, si je ne me suis pas exercé, si je ne sais pas ce que ça veut dire, ça peut être contre-productif. On a eu, il y a une année de cela, l'occasion sur une intervention, de préconiser une évacuation d'un quartier. Il faut s'entraîner, il faut s'exercer, et c'est beaucoup plus facile derrière à le mettre en place. Et l'avantage, comme c'était rappelé, tout le monde a un smartphone aujourd'hui, ou 95% de la population a un smartphone, donc c'est marqué dessus, c'est quand même plus rassurant que de partir à l'aventure.
Donc cette question d'alerte donnée aux populations amène aussi à une question: comment vous, vos différents services dans vos structures qui ne se ressemblent pas forcément, comment est-ce que vous travaillez à cette gestion des risques? Marianne Tessa, concrètement, comment ça s'imbrique dans vos missions de sous-préfète? Est-ce qu'on imagine que vous avez comme un téléphone d'urgence utilisé en cas de danger? Est-ce que vous vivez avec ça au quotidien? Comment ça marche concrètement?
Alors, pour peut-être répondre à la première question sur comment on travaille, le maître mot, c'est la coordination. Et cette fonction de coordination, c'est vraiment le rôle de la préfète. Donc, la préfète de l'Ain a ce rôle de coordonner la réponse opérationnelle en cas de crise, puisque on le voit, en fait, les crises, elles sont de plus en plus complexes. Pour donner qu'une illustration, on a des réseaux de communication, des réseaux physiques de plus en plus denses, on en est de plus en plus dépendant, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en cas de crise, probablement qu'il n'y aura pas que les pompiers qui vont avoir besoin d'intervenir, il faudra peut-être greffer aussi des experts techniques. Donc ce rôle de coordination, c'est celui de la préfecture, et en fait, on s'entraîne, c'est ça la clé. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, on faisait un entraînement sur le risque intempérie. S'il se met à neiger beaucoup, très fort dans le département, bon, vous voyez, c'est pas quelque chose de totalement improbable dans l'Ain. Comment on réagit? comment on agit. Donc ça, c'est voilà, pour répondre à votre question sur la réponse de crise. Et effectivement, avec des acteurs très différents, la clé, c'est comme pour le citoyen, pour le particulier, nous aussi, en tant que service, on doit rester entraîné. Ensuite, sur votre question sur les téléphones d'urgence, disons que ça s'imbrique très bien, forcément, dans mes missions, puisque ça avait été dit en introduction, mon rôle, c'est un directeur de cabinet en préfecture, c'est d'abord un sous-préfet, principalement en charge de la sécurité pour le compte du préfet. Et ce qui est important, je pense, c'est la notion vraiment de continuité de l'État et de permanence. Le fait que les services opérationnels, les élus, les maires, avec leur rôle dans la gestion de crise, les acteurs du département sachent que à toute heure, tous les jours, 365 jours par an, il y a une autorité préfectorale qui est en mesure de prendre connaissance d'une situation, de mobiliser des services et de prendre des décisions, par exemple l'activation d'un plan de réponse opérationnelle. Donc voilà un petit peu comment ça s'organise. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est un travail qui est très collectif. Le sous-préfet n'est absolument pas seul. Il va s'appuyer d'abord, bien sûr, sur les services de la préfecture, le bureau de la gestion de crise, sur le SDIS, les forces de l'ordre, qui sont aussi des conseillers du préfet, hein, chacun dans leur domaine. Ils vont concerter aussi avec les élus. Donc voilà, c'est toute une organisation qu'on travaille le plus souvent possible pour être prêt le jour J.
Pour vous, Hugues de Rognoncourt, la gestion de crise peut arriver à toute heure, certains diraient peut-être surtout les jours fériés, surtout le soir, surtout le week-end, et ça vient se rajouter aux missions quotidiennes. Comment est-ce qu'on se prépare à ça du côté des sapeurs-pompiers ?
Alors en fait, on est un des maillons de la chaîne, bien évidemment, et on croit beaucoup à l'entraînement. Et je pense que une crise, en fait, je pense que chacun sait à peu près ce qu'il doit faire. Le plus dur, c'est de coordonner tout ça. Donc le fait de s'exercer et de s'habituer à travailler ensemble, de se connaître, ça évite déjà une bonne partie des problèmes de savoir qui fait quoi. Donc l'exercice, c'est quelque chose d'important. Il y a plus d'une dizaine d'exercices au niveau du département de l'Ain. Je crois que c'est c'est un des départements qui s'exerce le plus. Donc ça c'est une chose. Et puis ensuite, on a des outils de commandement aujourd'hui qui sont à l'interface du directeur des opérations de secours, donc soit Madame le maire en l'occurrence ou Madame la préfète, et des outils de remontée d'informations, des outils aujourd'hui modernes avec des drones, avec des caméras, des liaisons qui permettent à distance d'avoir une idée un peu plus précise de la situation, et puis enfin des techniques qui nous aident à limiter les dégâts d'une crise. Donc on parlait de feux de forêt tout à l'heure, on parle de risques technologiques, on parle d'inondations avec des évacuations et des mises à l'abri. Donc tout ceci fait, cette culture du risque, en fait, elle est bien développée chez nous et avec des outils aujourd'hui qui sont de plus en plus performants. Et donc il n'y a pas de secret, il faut qu'on s'exerce quasi quotidiennement.
Dans le cas d'un risque industriel où il faut travailler avec une entreprise, est-ce que c'est aussi simple ? Comment ça se met en œuvre ?
Alors, là aussi, on a des plans particuliers d'intervention qui ont des dominantes. On peut avoir une dominante risque naturel, on peut avoir une dominante risque attentat, on peut avoir une dominante nombreuses victimes. Une déclinaison risque attentat, on appelle ça tuerie de masse dans le jargon. Et puis on a des risques technologiques. Donc là aussi, on a des périmètres de sécurité en fonction d'un zonage, en fonction du risque. On a tout d'abord une identification du risque. Alors, on est en site industriel. Quelque part, c'est quelque chose qui est un peu plus maîtrisé qu'un transport matière dangereuse sur une route en pleine campagne. On a la connaissance du produit, du process, et surtout, on a l'industriel avec nous qui a mis des mesures en œuvre, ce qui fait que lui, il a d'abord son plan d'organisation interne qu'il active, donc il prend ses mesures, et si jamais il n'y arrive pas, on fait appel au service extérieur pour intervenir. Et dans ce cas-là, on a une méthodologie, un process qui est bien établi comme ici. Les premiers intervenants savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils ont 4 à 5 scénarios. Et aujourd'hui, en plus, on a des tablettes sur intervention. On a des flashcodes qui nous permettent d'identifier tel ou tel process. Donc, alors, ça peut paraître un peu abstrait, tout ce que je vous dis, mais ça permet aussi, en partant sur intervention ou à la caserne, de s'exercer. Donc, on a quand même, on s'améliore dans les procédures. Puis après, il y a des spécificités. Je parlais de risques chimiques depuis 5 ans. Nous avons dans l'Ain une cellule d'identification risque chimique. Alors, on ne l'avait pas, pourquoi ? Bah, tout simplement, nous étions entourés de départements qui avaient une équipe risque chimique qui était rapidement sur les lieux. Donc, on avait juste, nous, le complément. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les risques se multipliant, la disponibilité des moyens étant de moins en moins importante, le département de l'Ain, depuis 5 ans, depuis le dernier schéma d'analyse et de couverture des risques, s'est doté d'une unité risque chimique, ce qui nous permet d'identifier le produit si on en avait besoin.
Et quelles sont les obligations des entreprises ? Parce que là, j'entends, hein, mais à quel moment ils communiquent ? À quel moment ils sont obligés de vous alerter ? Comment ça marche ?
Alors, y a un principe qui est assez simple, c'est je sors de l'enceinte de l'établissement, ça devient sur le domaine public, donc il y a une obligation d'informer. Je reste à l'intérieur du plan d'organisation interne de l'entreprise, je mets en place mes mesures, je suis censé informer, j'ai un incident. Donc sous contrôle, pas sous contrôle, sur une installation nucléaire de base, c'est la même chose. Hein, j'informe. Après, il y a des niveaux de gravité. Donc, son obligation, c'est de limiter au maximum sur le périmètre sur l'emprise de l'entreprise. Et dès que ça dépasse, c'est d'avertir le secteur public. Et là aussi, on a peut-être pas assez insisté, mais la grande évolution aussi depuis ces dernières années, je trouve, hein, c'est qu'en plus, avant c'était un peu l'affaire de la préfecture, un peu l'affaire des pompiers. Aujourd'hui, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Et grâce au plan communal de sauvegarde, on a aussi des élus, des équipes municipales qui s'exercent. Et ça, c'est une grande nouveauté aussi. Ce qui veut dire qu'on avait l'habitude, nous, de travailler force de l'ordre, force de secours, préfecture. Aujourd'hui, on a aussi ce lien qui est fait avec les élus, la population. Et ça, je trouve que c'est un maillon de plus qui solidifie cette chaîne.
Du côté de Brest-Vallon, vous vivez ces exercices. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, on en a fait un en 2022 sur la plateforme de StoreEngie. Et sur la question de l'obligation, il y a aussi des comités ou des commissions de suivi de site auxquelles sont associés de manière annuelle l'État, les collectivités territoriales, le SDIS pour l'industriel qui a obligation de démontrer ce qu'il met en place en termes de sécurité. Donc c'est aussi un outil important. Et dans la boucle, de plus en plus, et nous dans le cadre de la mise en place du plan de prévention des risques, il y a des représentants des riverains qui ont aussi une place importante. Nous, le plan de communal de sauvegarde, on l'a revisité dans le cadre de la commune nouvelle, puisque nous avions ECRA et ETRE, un plan de communal de sauvegarde, pour créer une culture commune, et puis rebalayer un peu toutes les actions. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Christelle Viverge, mon adjointe, qui a piloter ce travail et qui est présente ce soir. Ce PCS, il va anticiper l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard de chaque risque qui est identifié. Donc, c'est 6 classeurs par mission avec les fonctions de chacun, dont la fonction du maire qui, quand le risque est circonscrit à la commune, devient directeur des opérations de secours. S'il est élargi à d'autres communes, c'est la préfecture qui prend le relais. Je crois ne pas me tromper.
Oui, c'est exactement ça. Peut-être dire effectivement qu'il y a un principe de subsidiarité en fait en gestion de crise, c'est-à-dire que tant que c'est possible, c'est l'acteur finalement le plus proche de l'événement qui va traiter. Donc, quand une commune peut traiter avec ses propres moyens, bien sûr, c'est le maire qui va être en charge de la gestion de crise. Et c'est la même chose pour un industriel, pour répondre aussi à votre question de tout à l'heure. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, qu'un industriel qui active son plan, son POI, son plan interne, en informe la préfecture. Mais c'est pas parce que la préfecture est informée que ça y est, on envoie la cavalerie et toute la gestion de crise se fait au niveau de la préfecture. Non, quand la gestion de crise peut être faite avec les moyens locaux, par les acteurs locaux, c'est souvent comme ça que c'est le plus efficace.
Et comme vous le disiez, vous y avez fait référence, on a vraiment, dans le cadre de cette fonction de la directeur des opérations de secours, un rôle de catalyseur et d'interface avec la préfecture pour signaler qu'il y a un déclenchement du plan communal de sauvegarde, avec les services de secours, avec la population, et puis avec toutes les personnes, agents, élus ou bénévoles, qu'on va pouvoir mobiliser pour venir en appui, soit d'action de ravitaillement ou de blocage des routes, la gendarmerie, enfin voilà. Donc c'est un travail très conséquent, ce PCS, mais qui permet aussi ce travail d'appropriation et d'affinage de connaissances de son territoire. Ça a été un très bel outil pour une nouvelle équipe municipale qui venait de s'installer. Ça contribue à ça, à cette formation. Et quand vous disiez peut-être que ça a un côté anxiogène, que de porter à connaissance tous ces éléments, moi je le vois plutôt comme une boussole au sein d'un environnement qu'on connaît mal et qui vient éclairer justement les parcours à avoir au moment venu, le moment venu.
On a fait le point avec vous trois sur vos missions, sur vos plans, sur l'importance de l'entraînement, que ce soit du côté des représentants de l'État, des collectivités, des secours. J'ai bien noté ce que vous disiez, que la sécurité c'était l'affaire de toutes et tous, que l'action citoyenne dans ces moments-là était importante. Et certains pourraient dire que parfois les citoyens peuvent avoir des mauvais réflexes en cas de crise. Qu'est-ce que serait par exemple un mauvais réflexe en cas d'événement ?
D'aller chercher son enfant à l'école alors qu'on lui a demandé d'être confiné.
Oui, on a pensé à ça en préparant l'émission. Ce serait le réflexe que j'aurais personnellement.
Je suis désolé, je reviens toujours à mon métier d'origine, qui est le soldat du feu, il y a quelques années. On a encore trop de personnes décédées sur des feux qui ne prennent pas le bon réflexe. C'est-à-dire que quand vous avez un feu, surtout vous restez chez vous, vous calfeutrez, vous mettez à la fenêtre pour voir les secours arriver, donner l'alerte, mais surtout pas emprunter la cage d'escalier en fumée, et c'est comme ça qu'on a des mauvais réflexes. Vous êtes sur une inondation, combien de personnes sortent, soit pour aller voir ce qui se passe, prennent leur voiture et on sait, enfin, je vais tenter, ça va passer. Puis en fait, non, ça passe pas toujours. Donc ça, c'est des mauvais réflexes. On se croit toujours plus fort. Une fois qu'il y a une catastrophe naturelle, c'est les éléments qui sont plus forts que nous. C'est pas l'homme, là. Donc il faut revenir à des choses simples, se protéger, avoir, encore une fois, revenir sur sa petite orientation personnelle. Je suis à tel endroit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai mes papiers sur moi? Est-ce que j'ai les bons numéros d'urgence? Quand je donne l'appel, est-ce que je sais donner un appel? Donc c'est des choses simples qu'on peut s'exercer. Il y a des jeux pour ça, d'ailleurs. On peut s'exercer en famille et on peut aller même jusqu'au kit de survie s'il y a besoin dans certains secteurs. Mais voilà, c'est des gestes à adopter qui permettent de sauver des vies.
Justement, le travail peut-être de ces journées de résilience, c'était aussi peut-être de communiquer autour de ça. On ne l'a pas évoqué plus précisément, mais vous avez mis en place plein d'actions. C'est parce que ce n'est pas qu'une journée, en fait.
Oui, c'est pour ça que Madame la maire l'a cité. On utilise maintenant l'appellation « tous résilients face au risque » pour en fait ce cycle qui dure sur un peu plus d'un mois. L'objectif, c'est de toucher vraiment un maximum de public. Donc, on va vers les publics scolaires. On propose de manière encore plus intense pendant cette période-là des sensibilisations, des entraînements aux élus locaux. On va vers le grand public. L'idée, c'est vraiment on va vers les salariés des entreprises aussi. Donc l'idée, c'est de toucher un multiple public et en fonction du public, de faire passer des messages adaptés sur les conduites à tenir. Le premier message qui est valable tout le temps, quand il se passe quelque chose, on se met à l'écoute. Et on se met à l'écoute, préférablement d'informations fiables. Donc, on écoute bien sûr le service public, les médias du service public, la radio. On écoute, on peut consulter le site internet des services de l'État, les réseaux sociaux des sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre, bien sûr la communication des maires. Voilà, c'est la première chose, se tenir informé pour comprendre ce qui se passe et recevoir les consignes des autorités au bon moment. On l'a dit tout à l'heure, le fait d'évacuer, c'est toujours une consigne qui viendra des pouvoirs publics. C'est très rarement la première chose à faire. On n'évacue pas sans en avoir reçu la consigne, parce qu'on risque d'aller vers le danger, en fait. On n'a pas forcément conscience de là où le danger est et on risque de se déplacer vers le danger. C'est le même sujet si on va chercher ses enfants à l'école, alors que bien sûr, en cas d'événement grave, les enfants ne sont jamais livrés à eux-mêmes. Ils sont toujours pris en charge par l'éducation nationale. national en lieu sûr. Donc voilà, c'est tous ces messages-là qu'on essaye de faire passer, et on essaye de le faire avec des formats différents, des formats qui s'adaptent aussi au jeune public. Et voilà, l'émission de ce soir en est un exemple.
Pour retrouver toutes ces infos au-delà de l'émission, on a un site à vous conseiller, georisque.gouv, risque au pluriel. Pierre-Antoine, quelques infos sur ce site?
Ce site, il permet, en tapant son adresse, de voir l'ensemble des risques auxquels on peut être exposé et les bonnes conduites à tenir. On en a évoqué quelques-unes. Les risques sont assez différents. Le risque feu de forêt, le risque inondation n'appellent pas les mêmes conduites à tenir. Donc le site Georisque est vraiment une référence actualisée avec les risques auxquels je suis soumis et puis les conduites à tenir.
Merci, on repart avec plein d'outils pour être mieux informés. Merci à nos invités. Marianne Tessa, on rappelle que vous êtes directrice de cabinet de la préfète de l'Ain. Virginie Grignola-Bernard, vous êtes maire de Bresse-Vallon. Hugues de Regnaucourt, vous êtes directeur des services d'incendie et de secours de l'Ain. Pierre-Antoine Harvert, merci pour cette co-animation et nos échanges. Vous êtes responsable du bureau de gestion des crises à la préfecture de l'Ain. Merci à la commune de Bresse-Vallon pour son accueil, ici au tiers-lieu L'Écrin, et merci à Jimmy Franqui à la technique. À bientôt sur les ondes de Radio B.
Merci beaucoup. Merci.